Aïna, la zapette, tu l'as? Tu l'as. Tu me la donnes plus tard? Oh, Aïna, tu vas réagir quand je ferai ça ou pas? Ouais, ok, cool, très bien. Ça m'entraîne pour ce soir. Après la période de Noël, qui est une période un petit peu enfantine, où on parle de choses tellement mignonnes, sans transition, aujourd'hui on va parler de choses un peu moins mignonnes, puisqu'on va parler d'un texte, un des textes les plus choquants de toute la Bible. Et ça colle bien avec l'actualité. Ça colle bien avec l'actualité, justement. Test pour Aïna. La question des violences, et notamment la question des violences sexuelles, est plus que jamais sur le devant de la scène. Voilà, vous avez devant vous deux monstres sacrés, un monstre sacré du cinéma et un monstre sacré du journalisme, qui ne sont plus si sacrés que ça maintenant, puisqu'ils sont maintenant empêtrés dans de grosses affaires d'harcèlement sexuel et même de viol. La question des violences sexuelles est plus que jamais sur le devant de la scène. Et c'est une très bonne chose, car le silence a trop souvent primé. Ah ouais, tu dégaines, t'es en forme, Aïna. Je t'ai pas fait de signe, mais c'est pas grave, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vivement qu'on parle autant aussi des violences normales, des violences des maltraitances notamment, des maltraitances des enfants, des maltraitances des femmes. Avant que justement ces enfants et ces femmes meurent sous les coups de leurs bourreaux. Rappelons donc des chiffres. Donc, ne bouge pas, Ina, c'est des bons chiffres. Un Français sur 10 dit avoir subi des maltraitances physiques ou psychologiques pendant son enfance. Un Français sur 10. Ce qui veut dire que ce soir, lors du réveillon, je vous laisse imaginer combien vous allez être. Un Français sur 10 donc, dit avoir subi des maltraitances physiques ou psychologiques pendant son enfance, dans 95% des cas par un membre de sa famille. Chaque année, plus de 140 000 enfants seraient maltraités et plus de 60 000 seraient abusés sexuellement. Ou encore, 213 000 femmes subissent chaque année des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Et donc, je vous ai mis aussi d'autres chiffres par rapport au nombre de plaintes qui sont reçues dans les commissariats ou qui sont traitées par la justice. Cela veut dire, donc tous ces chiffres veulent dire que nous connaissons tous, sans le savoir, des femmes ou des enfants qui sont battus ou sexuellement abusés. Sans le savoir? Pas sûr. Tout le monde savait. C'est une phrase qui revient souvent dans les articles et dans les témoignages qui sont recueillis à propos des célébrités et notamment des deux monstres sacrés de tout à l'heure. Tout le monde savait. Des témoins relatent des histoires qu'on raconte, relatent une réputation. Tout le monde savait. Pas de preuves, mais en cherchant un peu, on pouvait trouver des preuves. La preuve, beaucoup de victimes ont fini par parler. Et les victimes continuent à parler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de découvrir la vérité, parce que le prédateur est puissant, le prédateur est soutenu par des gens puissants, et personne ne veut avoir de problème en se mêlant d'une affaire qui n'est pas la sienne. Et surtout, personne n'a envie de perdre son boulot. Sauf que la liste des victimes s'allonge à mesure que personne ne dénonce le prédateur, ou bien dans les cas de maltraitance familiale, la probabilité du coup fatal augmente si on laisse le bourreau se défouler en toute impunité. Combien de traumatismes? Combien de morts évitées si l'entourage était plus curieux devant certains indices? Est-on toujours une famille? Est-on toujours une société quand on ne prend plus soin les uns des autres? Est-on encore une famille? Est-on encore une société quand on détourne le regard pour ne pas être dérangé par ceux qui font le mal? C'est la question traitée dans le passage biblique que nous allons étudier, un des passages, je le répète, les plus dérangeants de toute la Bible. Nous sommes, tu peux mettre le titre, Aïda, merci. On est dans Josué 7. C'est l'histoire d'Acan. Hein, je suis pas tout à fait illettré, donc c'est normal qu'il y ait une faute. Hein. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Acan, et nous sommes dans le contexte de la conquête de la terre promise par les Hébreux. Et le contexte de ce passage, c'est que les Hébreux sont entrés en terre promise, ils remportent des victoires, mais inexplicablement, Israël se met à perdre une bataille, la bataille d'Aï. Alors que normalement, Dieu leur avait promis de leur donner le pays, mais ils perdent inexplicablement cette bataille. Et donc, on va voir pourquoi ils perdent cette bataille, et on va lire dans Josué 7, à partir du verset 6. Josué déchira ses vêtements, en signe de deuil. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils se jetèrent de la poussière sur la tête, toujours en signe de deuil. Josué s'écria : « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr ? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur ?» L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre ? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu. Puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial. Et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu. Et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit approcher groupe familial par groupe familial. Le sort désigna celui de Zéra. Il fit passer les familles du groupe familial de Zéra l'une après l'autre et c'est la famille de Zabdi qui fut désignée. Il fit avancer cette famille homme par homme et Acan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Josué lui dit, « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait, sans rien me cacher. » Acan lui répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. » Josué envoya des hommes à la tente d'Acan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout et l'apportèrent à Josué et tous les Israélites. Puis et à tous les Israélites, puis on le déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et ils les amenèrent dans la vallée d'Akor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur ? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé Vallée d'Akor, Vallée du Malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Quand je vous disais que c'était un des passages les plus choquants de toute la Bible, vous remarquerez que je n'ai pas menti. On peut être très mal à l'aise avec ce genre de passage, puisqu'il y a de la violence physique, et qu'en fait, on n'est plus très habitué à ce genre de violence physique. Et donc cet épisode est choquant pour un œil occidental du XXIe siècle. Pour quatre raisons principales. La première, c'est que c'est une lapidation, avec une justice plutôt expéditive. Troisièmement, qu'on condamne pas seulement le coupable, mais aussi toute sa famille. Et quatrièmement, pour une faute qui n'a pas l'air si grave que ça. Pourtant, pour ne pas se montrer raciste, eh bien, il va falloir que nous comprenions le contexte de ce passage. Parce que, je dis pour ne pas se montrer raciste, parce qu'on ne peut pas dire que notre civilisation est supérieure à la civilisation du temps de Josué, ou dire que finalement notre époque est complètement plus évoluée que la leur. Non, ce n'est pas vrai. Il va falloir contextualiser et comprendre pourquoi ils ont réagi comme cela. Dans la Bible, le plus grand danger pour les Hébreux et pour l'humanité, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie parce que l'idolâtrie est une aliénation spirituelle qui consiste à adorer des objets issus de l'imagination humaine au lieu de se tourner vers le seul vrai Dieu. Donc déjà, voilà la valeur, la grosse valeur dans la Bible, c'est que l'idolâtrie est un ennemi absolu. Être idolâtre consiste à manipuler des dieux pour un intérêt personnel ou collectif selon le principe du salut par les œuvres. Je fais ce qu'il y a à faire et les dieux me laissent tranquille et les dieux me bénissent. La foi que le Dieu de la Bible désire consiste au contraire à avoir une relation authentique avec son peuple. Pas une relation commerciale, comme dans l'idolâtrie, mais une relation authentique avec son peuple. Pour justement, ça consiste à faire ce qu'il dit pour lui faire plaisir et aussi avec la conviction que Dieu sait mieux que les humains ce qui est bon pour eux. Et donc rappelons aussi que les pratiques idolâtres de l'époque étaient souvent accompagnées de prostitution, de débauche et de sacrifices humains. L'idolâtrie et la foi biblique n'ont donc absolument rien à voir. La foi biblique est fondée sur la grâce. Dieu a libéré son peuple et en retour, son peuple lui obéit. Alors que l'idolâtrie et les religions en général sont fondées sur les relations commerciales. Je fais des choses pour que les dieux me bénissent. C'est justement pour délivrer son peuple de cette idolâtrie que Dieu les a sortis d'Égypte et les amène dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Il les amène dans ce pays pour qu'ils soient la lumière des nations, pour qu'ils construisent une société la plus parfaite possible, qui suive la loi de Moïse, une loi qui est faite pour garantir un maximum d'équité entre les personnes, prendre soin des plus faibles, la veuve, l'orphelin, l'étranger, pour que justement Israël soit la lumière des nations, pour que les nations aient envie d'imiter Israël tellement bien finalement cette société sera merveilleuse. En gardant un butin du monde d'avant, un butin idolâtre, à quand remet en cause cette nouvelle société qui doit être construite sur la terre promise? Et à quand encourage ses voisins à faire de même? Il met tout le projet en péril. C'est pourquoi Dieu stoppe net la progression vers la terre promise jusqu'au règlement du problème. Et il faut noter que Dieu ne va pas foudroyer à Caen, mais Dieu veut que le peuple fasse lui-même justice. Et ça confirme une expression qu'on retrouve 9 fois dans le Deutéronome. Voici ce que Dieu dit dans la loi de Moïse, donc à son peuple. Vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. C'est la responsabilité du peuple. Est-ce qu'on a affaire à une justice expéditive? Eh bien, il faut rappeler d'abord qu'on évolue ici à une époque où, quand il y a un litige entre deux parties, la justice est rendue par les anciens du lieu et elle est exercée par la famille de la victime. On est dans un système judiciaire extrêmement léger, quasi inexistant, et donc c'est les anciens qui rendent les décisions et c'est la famille qui exerce le jugement. C'est une justice de proximité avec des règles bien définies par la loi de Moïse. On ne peut pas condamner quelqu'un sans le témoignage de 2 ou 3 personnes. La loi du talion, qu'on comprend très très mal aujourd'hui, qui est en fait une loi limitative, ce n'est pas une loi où on se venge comme ça, c'est une loi où en fait finalement, quand on te blesse un œil, eh bien tu rends l'appareil juste un truc mesuré. Quand on te blesse un œil, tu ne vas pas tuer toute la famille de l'autre, tu te contentes de blesser l'œil. C'est une justice rétributive assez exacte. Donc la loi du talion, par exemple, ou aussi la loi de Moïse qu'on prévoit des compensations financières ou des compensations physiques en cas de faute. Et quand le fautif est condamné, quand il est jugé coupable, souvent quand il commet un péché qui ne mène pas à la mort, il doit verser une compensation financière à sa victime, mais il doit aussi sacrifier une de ses bêtes pour demander pardon à Dieu. Car c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, dans la loi de Moïse, il y a toujours 2 offensés au minimum. La victime qui a été blessée et Dieu qui a été blasphémé. Dans le cas d'Acan, Dieu est le principal plaignant, mais aussi, par ricochet, tout le peuple qui est privé de la bénédiction. Un tirage au sort est effectué, probablement grâce à 2 instruments qu'on connaît assez mal, qui s'appellent l'Ourim et le Toumim, qui sont 2 instruments dont se servait le grand prêtre pour discerner la volonté de Dieu. On posait une question fermée, on lançait l'Ourim et le Toumim sur le vêtement du grand prêtre, et selon la manière dont l'Ourim et le Toumim atterrissaient, eh bien, c'était un oui ou c'était un non. Et c'est probablement comme ça que, on a consulté l'Éternel ici. Dans notre récit, on peut constater que la consultation de l'Éternel a dû être longue, très longue. Vous avez remarqué, on fait passer tribu par tribu. Je vous rappelle, il y a 12 tribus. Donc on demande à l'Éternel, est-ce que c'est cette tribu-là? Oui, non. Et après, clan par clan, chef de groupe familial par groupe familial. Oui, non, oui, non, oui, non, on les fait tous passer, jusqu'à ce qu'il y ait un oui. Après, famille par famille, oui, non, oui, non. Hein, et après, tous les hommes, chaque homme de chaque grande famille, oui, non, et ça arrive à quand? Ce fut lent, comme si Dieu voulait laisser à Acan le temps d'avouer sa faute. Au fur et à mesure que la vérité se rapproche. Et si vous vous mettez dans la tête d'Acan, vous dites, oh, au départ, vous dites, ouais, ça va passer. Quand vous arrivez à la tribu de Judas, ça va passer. Après, vous arrivez au clan, c'est votre clan, vous dites, ça va passer. Et après, groupe familial, ça passe de moins en moins. Et après, vous dites, ça commence à se rapprocher. Vous pouvez avouer, Acan a choisi de ne pas avouer au fur et à mesure que la vérité se rapprochait. C'est une justice qui n'est pas si expéditive que ça, en fin de compte. Alors, est-ce que la condamnation, elle, est excessive? Dieu donne une chance à Achan, mais il donne aussi une chance à sa famille de le dénoncer. Car à coup sûr, sa famille est au courant de ce qu'il a fait, puisque le manteau et l'argent sont cachés au milieu de la tente. Au milieu de la tente, ça veut dire qu'en fait, toute la famille est au courant de ce que Achan a fait. Pourtant, ni Achan, ni un de ses proches ne parlera. Et il faut garder le secret, il faut regarder ailleurs, même si cela porte préjudice à tout le monde. C'est la raison pour laquelle la sentence est sans pitié. Pour tous ceux qui auraient pu éviter le mal, mais ne l'ont pas fait. Ne pas dénoncer le mal, c'est y contribuer. Il n'y a pas de neutralité devant le mal. Ne pas dénoncer le mal, c'est y contribuer. Vous pensez peut-être que le dénouement de cette histoire est beaucoup trop extrême, digne du salafisme le plus barbare. Mais revenons au sujet des violences physiques et sexuelles et à cette question fondamentale. Une société peut-elle tolérer les prédations en son sein sans réagir ? Car les sanctions qu'on n'inflige pas aux témoins pour leur inaction, on les fait peser sur les victimes qui continuent de souffrir de l'injustice. Être neutre et mesuré, c'est déjà vouer ses victimes à une mort certaine. Il n'y a pas non plus de neutralité en la matière. Ne pas lapider les bourreaux revient à lapider les victimes. C'est le problème aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut un peu réfléchir avant de condamner certaines mesures radicales de la Bible, comme celles de beaucoup de civilisations anciennes d'ailleurs. Pour parler d'un sujet que je connais un petit peu, l'histoire, on sait maintenant en fait qu'il faut vraiment arrêter de considérer les peuples, même les plus éloignés de nous, comme des peuples un petit peu arriérés qui ne connaissaient pas grand-chose. Plus on fait des recherches, plus on fait de l'archéologie, plus on s'aperçoit que les peuples anciens, même très anciens, eh bien, étaient tout à fait avancés et avaient à peu près le même cerveau que le nôtre, qui fonctionnait très bien. Donc il faut vraiment faire attention. Ces pratiques qui nous paraissent un petit peu choquantes avaient une raison légitime. Elles montrent les valeurs vraiment fondamentales d'une société. Et surtout, jusqu'où on est prêt à aller pour préserver ces valeurs. À l'époque biblique, c'est la lutte contre le mal et la réparation des victimes qui est au centre. Aujourd'hui, c'est la liberté individuelle et la peur de l'erreur judiciaire. Les valeurs de notre société semblent vraiment plus civilisées que celles des temps anciens, plus répressives, plus expéditives. Mais les valeurs d'aujourd'hui semblent aussi plus laxistes, car pendant qu'on veut préserver la présomption d'innocence, les prédateurs et autres bourreaux sont toujours libres. Et la liste des victimes s'allonge. Je t'ai pris en flag, Aïna, de regarde sur le téléphone. Je sais pas ce que vous pensez des mouvements comme MeToo, Balance ton porc, ou de toutes ces femmes plus ou moins connues qui ont témoigné des viols qu'elles ont subis. Vous pouvez penser que c'est un peu excessif, mais je pense que c'est surtout l'expression de l'exaspération des victimes qui n'ont pas été assez entendues, et surtout des victimes qui voient que la justice est aujourd'hui incapable de condamner le pervers qui les a agressées. Parce que dans un grand nombre de cas, il y a un non-lieu, parce qu'il n'y a pas de preuves. Leur seule arme à ces victimes, c'est la lapidation médiatique. Et donc on constate ce fait intéressant, des féministes du XXIe siècle sont finalement dans la lignée de la loi de Moïse. La lapidation n'est plus avec des pierres, mais la lapidation est médiatique. À peu près tous les soirs, avec Mélanie, on regarde des débats sur à peu près tous les sujets, mais en ce moment, quand même, le sujet des violences sexuelles est quand même assez prégnant. Eh bien, la plupart des femmes qui ont été agressées disent cela. Notre seule arme, c'est de dénoncer médiatiquement, puisqu'en fait, à chaque fois, il y a un non-lieu. À chaque fois, il y a un non-lieu. Et il y a tout un pouvoir qui est derrière les prédateurs qui nous empêche en plus de parler. Donc quand on arrive miraculeusement à parler et qu'on arrive devant des policiers ou devant des juges, il y a un non-lieu. Notre seule arme, c'est la lapidation médiatique. Ces féministes dénoncent une culture du viol, c'est-à-dire une société qui ne veut pas voir les violences perpétrées et même qui les protège au nom de l'état de droit et de la présomption d'innocence. Alors bien entendu, tout le monde est pour un état de droit où l'on ne peut pas se faire justice soi-même, où il faut faire une enquête qui aboutit à un procès équitable, tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y a un problème quand l'enquête est trop longue et qu'elle n'aboutit à rien. Il y a un problème quand la présomption d'innocence permet à un pervers de faire des victimes supplémentaires ou d'avoir assez de temps pour tuer sa compagne. En justice française, le doute profite toujours à l'accusé, et c'est probablement une bonne chose pour éviter les erreurs judiciaires, mais cela ne fonctionne pas pour les violences physiques et sexuelles qui sont si difficiles à prouver. Le système judiciaire est impuissant, il ne reste donc que la société qui pourrait les dénoncer elle-même. Mais comme la famille d'Acan, chacun choisit de regarder ailleurs. J'ai jamais rien remarqué. C'était la tribune des potes de Depardieu. J'ai jamais rien remarqué. Donc je peux plus dire, jamais rien remarqué. Ce ne sont pas mes affaires. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Souvent un peu ce qui se passe quand il y a une femme qui a été tuée sous les coups de son mari. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Il serait donc temps de remettre en cause notre indifférence, de remettre en cause notre individualisme pathologique et de réintroduire la notion de responsabilité collective. 13 siècles après l'histoire d'Acan, l'apôtre Paul va prendre une métaphore très intéressante pour parler de l'Église. Les chrétiens d'une assemblée sont les membres d'un corps dont Jésus est la tête. Ces membres, si différents, sont, qu'ils le veuillent ou non, interdépendants, si bien que si l'un souffre, tous souffrent avec lui. Si vous vous mettez un coup de marteau sur un doigt, tout votre corps sera impacté, pas seulement votre doigt. Et à l'inverse, après un bon massage cervical, tout votre corps sera détendu. Interdépendance. Une société, Église ou nation, ne peut pas tolérer le mal sans se tirer une balle dans le pied. Et une balle dans le pied, ça fait mal à tout le corps. Car tel un cancer, le mal se propagera et fera mourir le corps entier. C'est pourquoi Jésus a eu ces propos radicaux. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Jésus n'est pas beaucoup plus doux qu'à l'époque de Josué. Et surtout, finalement, Jésus a subi la lapidation de son peuple pour nous sauver de la lapidation. On pense parfois que la Nouvelle Alliance est plus sympa que l'Ancienne, mais dans la Nouvelle Alliance, on a l'acte violent par excellence, qui est souvent accroché au mur de la plupart des églises. Cet acte violent nous montre qu'il a fallu la mort de quelqu'un pour que nous soyons sauvés. Parfois, la radicalité sauve la vie et l'inaction engendre la mort. Et si nous commencions à prendre soin de notre prochain? J'imagine que tout le monde est d'accord avec ça, prendre soin de son prochain. Mais cela veut dire ouvrir les yeux sur nos problèmes, se dire nos problèmes et les écouter. Je ne parle pas d'instaurer un climat de suspicion où chacun chercherait les péchés des autres pour mieux les dénoncer. Je parle d'une lutte active et collective contre le mal individuel et collectif. L'avantage de l'Église, c'est que grâce à l'Évangile, nous ne sommes pas naïfs à propos de notre état. Nous sommes tous des malades en traitement. Personne ne peut dire « je suis en bonne santé ». Nous sommes tous des malades en traitement, des pécheurs en cours de sanctification. Alors que notre société pense que les humains sont fondamentalement bons et que la société progresse, nous, nous savons qu'il n'y a rien de plus à espérer des humains s'ils ne sont pas régénérés par Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de la vérité et nous pouvons même l'affronter sereinement car nous savons que Dieu vient à notre secours par l'Esprit Saint qui habite en nous. Alors comment faire mieux ? Comment finalement appliquer dans la Nouvelle Alliance cette histoire d'Acan ? Ben, je pense que la première chose à faire, c'est d'écouter, de croire, d'aider les victimes, d'avoir cette oreille attentive pour les gens qui souffrent, qui peuvent témoigner, qui peuvent dire en fait ce qui ne va pas. Parce que quand ils peuvent dire ce qui ne va pas, eh bien on peut commencer à régler le problème. Vous ne laisserez pas le mal grandir parmi vous. Au GBU, on voit passer toute l'année des étudiants, tous les ans des étudiants. Et j'ai essayé de compter tout à l'heure, mais je ne suis pas arrivé à avoir un nombre exact, mais tous les ans, on a des étudiants qui ont été abusés sexuellement. Tous les ans. Que ce soit à l'école, mais en fait, il y en a un paquet à l'église. À l'église. Et c'est déjà un scandale absolu, mais en plus, quand on leur demande en fait comment ça s'est passé, comment tu as réagi, beaucoup en fait disent mes parents m'ont dit de pardonner à mon agresseur. Pardonner à ton agresseur. Il n'a pas été dénoncé. Non, il n'a pas été dénoncé. Donc en fait, vous rendez compte, les gens qui étaient censés protéger ses enfants ont dit à ses enfants de pardonner à leur agresseur comme ça, et puis en fait, il n'y a pas eu de justice qui est passée. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Écoutez les victimes et affrontez le problème. C'est ce qui devrait se passer dans les églises pour que, justement, éradiquer le mal qui est au milieu de nous. Car des prédateurs, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Ah oui, c'est très bien. On peut aussi donc dire, avoir une oreille attentive à l'Église pour les personnes qui ont des problèmes. Autre anecdote, récemment, un ancien étudiant du GBU m'appelle parce que je voulais faire intervenir pour un réseau professionnel. Et il me dit, bon, il faut que je te dise un truc quand même. Récemment, là, j'ai fait une dépression. Et en plus, j'ai développé des TOC. Et donc, en fait, ça devenait très problématique. Et donc, il faut juste que tu saches, je suis sous antidépresseur et j'ai été voir un psy. Et je vais toujours voir un psy et ça va beaucoup mieux. Ben, je dis, c'est très, très bien. Je ne comprenais pas trop pourquoi il me le disait, mais en fait, j'ai compris qu'en fait, j'étais la deuxième personne à qui il le disait. Enfin, après sa femme, bien sûr. Et je dis, pourquoi tu ne le dis pas ? Pourquoi c'est pas... Parce que c'est pas... Il n'y a rien de problématique à voir un psy et à prendre des antidépresseurs. Et surtout si tu vas mieux. Et il m'a dit non, parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai toujours pensé qu'à l'église, il fallait aller bien. À l'église, il faut sourire. Il faut dire que ça va bien. Le gars est fils de pasteur. Facteur aggravant. Et donc, l'église va, on va bien à l'église. Et donc, il a vu comme modèle à l'église que les gens disaient « Ouais, ça va. » Et puis tout le monde sourit. Tout le monde sourit. À l'église, justement, comme je disais, à l'église, l'église est un agglomérat de personnes qui vont mal. Qui vont mal, mais qui vont mieux. Grâce à l'évangile et grâce à la communion fraternelle, grâce à tout un tas de choses. Mais justement, l'église est le lieu où l'on peut dire que ça ne va pas. C'est le lieu où on peut dire même que ça va, mais qu'on a encore 2-3 problèmes. C'est le lieu où on peut partager ses problèmes, on peut prier les uns pour les autres, on peut s'épauler les uns les autres. C'est ça l'Église. C'est pas un lieu où on sourit et où tout va bien. Même si on a le droit de sourire et de dire que tout va bien. Attention, on n'est pas obligé de tous pleurer. Hein, voilà, enfin, voilà. Voilà, c'est intéressant de tous ces cas où, en fait, des fois, l'Église n'est pas un lieu. Voilà, on peut vraiment dire les choses. On peut aussi lutter contre l'individualisme, c'est-à-dire que se dire, quand un membre de l'Église part à la dérive, eh bien, on part tous à la dérive avec lui. Finalement, ça impacte tout le monde. Souvent, dans notre monde individualiste, on se dit, bah, finalement, je fais ce que je veux et ça n'a pas de conséquences. Et on se dit, telle personne, tant pis, voilà, elle s'éloigne, elle part en vrille, on n'y peut rien, quoi, on n'y peut rien. Bah, on n'y peut rien, c'est pas si sûr. Et est-ce que ça va pas impacter notre vie? C'est pas si sûr non plus. C'est pas si sûr non plus. Mais souvent, en fait, on a ce réflexe individualiste qui est dans notre société, où finalement chacun fait ce qu'il veut et ça n'a pas de conséquences. En fait, c'est pas vrai. Chacun fait pas ce qu'il veut et ça a des conséquences. L'histoire d'Acan nous le dit, mais je pense que si on est vraiment un corps spirituel, eh bien, je pense que c'est vrai aussi. Je conclue en disant que j'ai beaucoup parlé de victimes de violences physiques et sexuelles. Parce que finalement, ça s'y prête. Hein, ça se prête. Le péché d'Acan, je trouve, met bien en perspective. En tout cas, les violences sexistes et sexuelles mettent bien en perspective la question du péché d'Acan et la question finalement de la lapidation. Mais le principal problème des chrétiens reste l'idolâtrie. À notre époque, l'idolâtrie a un nom. Ça s'appelle les loisirs. Les loisirs qui font notre plaisir individuel, notre Dieu. Et donc la question est de savoir comment nous luttons contre ce fléau qui nous fait perdre du temps, des neurones et accessoirement nous amène à détruire notre planète. Car les loisirs sont quand même une bonne cause de destruction de la planète. On en parlera une prochaine fois, mais je voudrais qu'on termine avec justement une prière de repentance. Une prière de repentance parce que je pense que ce texte s'y prête. Que nous le voulions ou non, le mal habite encore en nous. Le mal est encore présent sur beaucoup de formes, plus ou moins subtiles, dans notre Église, l'Église universelle, dans nos assemblées différentes. Et nous avons à avoir un cœur repentant. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Nous devons justement développer cette culture de parole, de dire ce qui ne va pas, d'écouter ce qui ne va pas, de regarder le problème dans les yeux et de vouloir le traiter parce que Dieu veut le faire. Je vous invite à prier. Merci notre Père parce que le problème du mal, toi tu l'as traité, tu as envoyé ton fils sur cette terre et ta colère est passée sur lui. Il a pris sur lui le châtiment qui nous était destiné et nous voulons te remercier, te louer. Parce que le Seigneur Jésus nous a sauvé la vie. Nous te remercions aussi, Seigneur, parce que tu as placé en nous ton Esprit Saint. Merci parce que ton Esprit Saint nous a convaincus de péché et de jugement. Et parce que ton Esprit Saint nous aide aussi à te connaître mieux de jour en jour. Aussi à voir toutes les choses qui ne correspondent pas à ta volonté en nous. Et merci, Seigneur, parce que quand nous t'appelons à l'aide, pour que tu fasses le ménage en nous, eh bien, tu réponds. Parfois de manière douloureuse, parfois de manière rapide. Mais Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous écoutes et parce que nous constatons que nous pouvons progresser de jour en jour avec ton aide. Te prions, Seigneur, pour que tu rendes notre cœur attentif, que tu rendes nos yeux attentifs aux problèmes qui sont toujours en nous, aussi à la souffrance qui peut être là chez nos frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette liberté de dire tout ce qui nous pèse. Aide-nous, Seigneur, à avoir le courage de regarder en face toutes les choses qui nous font souffrir, toutes les choses qui parfois nous font plaisir mais qui te déplaisent. Aide-nous, Seigneur, à affronter toutes les choses qui font du mal à nos frères et sœurs. Seigneur, aide-nous à parler, Aide-nous à te prier. Aide-nous à tout te remettre. Et Seigneur, continue de nous sanctifier et de nous faire parvenir à la stature de ton Fils. Aide-nous, Seigneur, à nous faire grandir spirituellement. Nous t'en prions que tu puisses de plus en plus éradiquer le mal du milieu de nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.